Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à chacun. Et je vous propose que nous ouvrions notre Bible et nous allons lire un premier passage dans la lettre de Paul aux Romains. Voilà. Alors, c'est un livre bien connu, hein, central dans les livres de la Bible. Et nous allons lire donc dans Romains chapitre 8. Et au verset 24, parce que c'est la pensée principale de notre méditation ce soir, et j'y apporterai un commentaire sur le propos. Voilà, alors donc, Romains chapitre 8, verset 24. C'est très court et très bref. Et c'est Paul qui dit ceci: « C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. » Et vous comprenez pourquoi. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? J'ajoute, puisqu'on le voit. Donc c'est une réalité, une réalisation. Et il poursuit, il dit ceci: « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et j'aimerais particulièrement souligner le mot « persévérance ». On a une petite idée de ce que cela veut dire, naturellement. Pour être synonyme de détermination, de courage aussi, d'engagement volontaire et avec tout simplement, eh bien, ce désir d'atteindre un but ou le but que nous nous sommes fixés, parce que nous y croyons. Et les gens qui ne croient pas à ce qu'ils peuvent obtenir, ou à ce qu'ils ont eu à un moment donné projeté, eh bien, ils ne peuvent pas persévérer, puisque la persévérance, elle est liée finalement, eh bien, à une espérance, à quelque chose que nous avons au fond du cœur, et nous voulons voir cette espérance se réaliser, c'est pourquoi nous persévérons. Beaucoup se découragent en cours de route. Alors ça, c'est la première chose. Vous avez remarqué avec moi, l'apôtre Paul l'exprime, mais je ne vais pas m'étendre en commentaire sur la question. Et puis, nous allons également maintenant ouvrir un autre passage dans le livre des Proverbes. Alors, livre des Proverbes, ça se trouve dans la première partie de votre Bible, au chapitre 21. Et là, nous avons aussi, eh bien, un texte qui nous parle non seulement de la persévérance, mais la gestion de la persévérance. Comment nous gérons cette persévérance? Et ça, c'est important, c'est le côté pratique. Soit nous allons oublier de persévérer, ou soit nous allons essayer de bousculer les choses. Alors écoutez, il y a un mot aussi qui fait référence, un mot-clé. Donc, Proverbe chapitre 21, verset 5. Il est dit ceci: « Les projets de l'homme diligent, sage ou prudent, donc les projets de l'homme diligent, ne mènent qu'à l'abondance. Si nous espérons une bonne chose et nous croyons véritablement qu'elle va se réaliser parce qu'elle est bonne, alors nous pouvons nous attendre à ce que ce soit vraiment béni. Et dans cette bénédiction, il y a aussi le mot « abondance », cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et puis, il y a cette parole qui suit, et c'est celle-là qui nous intéresse. « Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Alors, imaginez-vous que nous ayons une espérance pour une chose, un but. Que nous nous appliquions à vivre ce que nous avons à vivre et à développer ou à maintenir l'espérance en nous, nous allons atteindre. Et c'est la persévérance qui va nous donner d'atteindre le but. C'est ce qui nous est dit dans la première proposition du livre des Proverbes. Mais par contre, si nous ne savons pas attendre, et si nous ne savons pas attendre pour persévérer, tenir notre âme en patience et que le temps s'accomplisse, alors à ce moment-là, nous risquons de passer à côté du but, parce que la précipitation n'amène qu'à la déserte, c'est-à-dire à la perte de ce que nous avons espéré. Voilà. Donc les mots-clés, persévérance et précipitation. Et puis il y a une parole de sagesse qui va s'ajouter à cela. C'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alors vous ouvrez votre Bible ou non, c'est pas grave. Moi, je vais vous donner tout simplement, eh bien, la référence dans le livre de l'Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste, excusez-moi. Chapitre 3 et verset 1er, parce que tout est lié à un facteur qui est le facteur du temps. Oui, on est des êtres renfermés dans le temps. Qu'on le veuille ou non, nous sommes entre, finalement, eh bien, un commencement et une fin. Nous sommes des êtres finis. C'est-à-dire que, il y a un temps. Voilà. Alors, le livre de l'Ecclésiaste nous dit ceci en substance, au chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Alors après, vous pourrez le lire chez vous si vous voulez. Un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ici, un temps pour là. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la configuration de notre message que nous avons placé, eh bien, devant nous. Vous savez qu'aujourd'hui, enfin, en ce moment, il y a une grande manifestation sportive qui fait la réputation de la France dans le monde entier, c'est le Tour, dit Tour de France. Et il y a quelque chose de particulier dans cette compétition sportive, c'est que c'est un sport qui dure sur à peu près 3 semaines. Et imaginez-vous que ceux qui sont partis d'un point et qu'on leur dit vous avez 3000 et quelques kilomètres à parcourir, vous avez toute la France avec les creux et les bosses, vous voyez ce que je veux dire. Alors vous partez aujourd'hui et jour et nuit vous allez pédaler sans vous arrêter. Je m'imagine un peu le résultat à la fin. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde à l'arrivée. Donc on a fait des étapes, mais des étapes qui sont quand même assez... c'est bien, parce qu'il y a des petites étapes contre la montre, etc., mais il y a des grandes étapes qui, quelquefois, font 200, 300 peut-être kilomètres, hein, et avec des montagnes, avec toutes sortes de choses. Alors, on a mis des étapes. C'est un sport assez particulier. Certains aiment bien et suivent ça, et c'est vrai, il y a tant de kilomètres sur une durée ou l'endurance, même s'il y a des étapes. Parce que, enfin, moi, je m'imagine mal, hein. Pédaler déjà pendant toute une journée et pédaler en vitesse et dans l'endurance, eh bien, c'est quelque chose. Et puis le prix est remporté à celui qui, quelque part, espère avoir la victoire. C'est ce qui le motive. Mais en plus de la victoire, il y a aussi de la persévérance, que l'on appellera en termes sportifs de l'endurance ou de la pugnacité. C'est le terme tout à fait approprié. Et vous savez que quand ils partent, quand c'est le départ, le premier jour, ils veulent tous arriver au bout. Mais hélas, il y a tellement de déboires ou de chutes ou d'incidents ou d'accidents en cours de route, c'est que, et on mesure certainement le champion, le vainqueur, au sacrifice qu'il a fait pendant ce temps, mais qu'il a fait aussi auparavant, parce qu'il y a de l'entraînement, il y a toutes sortes de choses. Et je voudrais justement un petit peu conduire notre réflexion sur ce que nous dit la Bible, et je pourrais l'appeler ainsi, ne brûlons pas les étapes, voilà, si on veut arriver jusqu'au bout. Et c'est peut-être quelquefois la réflexion que nous pouvons avoir dans notre vie, parce que nous sommes pressés, nous sommes poussés par quelquefois des situations difficiles, de souffrance, de douleur, et parce que nous ne pouvons plus, eh bien on dit, voilà, on va accélérer. Et puis, voilà. Mais il faut respecter les étapes en tout. Alors, on comprend que quand on est petit garçon ou petite fille, les parents nous disent « quand tu seras grand ». Alors, à force de le répéter « quand tu seras grand », quand on est adolescent, on voudrait avoir 18 ans. Quand on a 18 ans, on voudrait avoir 25 ans. Quand on a 25 ans, on voudrait avoir 35 ans. Et puis, quand on en a 35, on voudrait en avoir 50. Et quand on en a 50, on voudrait en avoir 62 ou 68 pour arriver à la retraite. Et... il n'y a qu'à la fin que ça commence à rétrograder un petit peu, vous savez, on fait un petit peu le... voilà. Donc, quand tu seras grand, parce que on nous a mis dans la tête de griller les étapes, vous comprenez ? On ne vit pas le temps présent, on voudrait être déjà dans l'étape suivante. sur le plan spirituel, sur le plan de la découverte de la foi. Moi, je l'entends quelquefois, on vient me le dire. « Oh, qu'est-ce que j'aimerais de connaître ceci, de connaître cela. J'aimerais connaître toute la Bible, etc., etc. » Du calme. Vous avez toute la vie pour l'apprendre. Ouais, on me dit ça. Hein, les gens qui s'engagent, ils viennent me voir en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est long, je voudrais être plus avancé. » Calme. Soyez zen, si vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. Alors, on va parler un peu comment faire pour pas brûler les étapes. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Donc, moi, je vais prendre un premier exemple de persévérance d'abord, mais de persévérance en respectant les étapes et sans se précipiter, laquelle précipitation peut nous faire arriver en dehors du but, c'est-à-dire à la disette. Il y a un bel exemple, c'est le prophète Élie. Et figurez-vous, le prophète Élie va vivre avec son serviteur une expérience formidable, parce qu'Élie a la foi, c'est un homme de grande foi, Élie. Et il va vivre quelque chose avec son serviteur dans un temps de crise, dans un temps où le pays est en sécheresse, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à manger. C'est véritablement la dévastation et ça presse. Et c'est là, quand ça presse, on a envie de griller les étapes. Et je voudrais que dans l'histoire que je vais vous raconter brièvement, ça faisait 3 ans et demi qu'il n'avait pas plu. On n'en est pas là aujourd'hui. En tous les cas, chez nous. Ça craint pas, hein. Alors, Élie va monter sur la montagne du Carmel. Et là, il nous est dit que il avait reçu l'espérance que Dieu allait envoyer la pluie. Vous comprenez? Alors, il monte sur le mont Carmel. Et il se penche contre terre, il met son visage entre ses genoux et il va dire à son serviteur, écoutez bien, monte, regarde du côté de la mer. Parce que la pluie, ben comme chez nous, en bord de la mer, ça vient toujours de l'ouest. Et là, ça venait aussi de l'ouest. Regarde s'il y a un nuage qui apparaît pour abreuver le pays qui est exsangue, le pays qui est comme une pierre desséchée. Compte tenu de la longueur de l'épreuve. Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur d'Élie va monter. Et il regarde, il scrute. Qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Un ciel d'azur. Rien du tout à l'horizon. Un ciel d'azur et un ciel fermé. C'est un temps qui ne peut qu'apporter le désespoir parce que ça fait des années, ça fait des mois et des mois que c'est comme ça et il n'y a rien à espérer. Alors il regarde. Et il dit, en revenant vers Élie, Élie qui est en train de prier, qui a demandé que la pluie vienne, parce que Dieu lui a dit que la pluie allait venir. Et il regarde, il dit, mais il n'y a rien à l'horizon. Et voilà que Élie va lui faire cette réponse, écoutez bien, parce que ça c'est important, il va lui dire tout simplement, retourne, 7 fois regarder. Tu vas remonter en haut de la montagne, sur le mont Carmel, alors il revient, la première fois. Il retourne une deuxième fois, rien. Deuxième fois, troisième fois, rien. Quatrième fois, cinquième fois, rien. Sixième fois, rien. Et là, il se passe quelque chose. Parce qu'il a persévéré. Il aurait pu dire à Élie, mais maître, tu me racontes des histoires. Ça fait 3-4 fois et moi, je peine pour monter jusqu'à là-haut. Je suis fatigué. Et à chaque fois que je vais, je ne vois rien. Il n'y a rien du tout. Et pourtant, à chaque fois, Élie lui dit, mais retourne quand même. Alors, il va faire. Jusqu'à la 7e fois, et écoutez bien, le texte nous dit, à la 7e fois, le serviteur revenant vers Élie dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Vous voyez, c'est pas très large, hein. Un nuage à l'horizon qui est grand comme la paume de la main, faut avoir de bons yeux, hein. Ou alors de bonnes lunettes. Voilà. Élie dit, monte. Remonte. Voilà. Parce que maintenant, la promesse de Dieu, si petite soit-elle, le simple petit mouvement d'un nuage poussé par le vent qui arrive vers nous, eh bien, c'est la réalisation de la promesse de Dieu. Dieu exauce notre prière. Même si c'est gros, comme la paume de la main, et que c'est perdu dans un horizon, dans un ciel d'azur, que l'on voit à peine. Alors, je continue l'histoire. Il va dire, « Eh bien maintenant, ne t'arrête pas. » Et en peu de temps, le ciel s'obscurcit par des nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire pour chacun d'entre nous, nous qui attendons avec persévérance, nous qui avons au fond du cœur quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu a mis dans notre cœur, du bien, des bonnes choses, quelque chose qui, véritablement, eh bien, va être une réelle bénédiction. Ça veut dire que si nous persévérons, comme le serviteur l'a fait, il est retourné 7 fois, et la 7e fois, les choses sont venues. Alors, ça signifie pour les uns et les autres qui écoutons ce soir, c'est de savoir discerner les prémices et les faibles commencements. Et c'est ça ce que Dieu fait très souvent dans notre vie. Et j'ajouterai cette parole du livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, et vous connaissez la fin? Et l'on n'y prend pas garde. Et nous continuons à nous lamenter, nous continuons à pleurer. Seigneur, envoie-nous la pluie. Envoie-nous encore, eh bien, ta grâce et ta bénédiction. Et Dieu a envoyé un petit nuage, par-ci, par-là, qui passe au-dessus de notre tête, et nous le voyons pas. Parce que nous manquons de persévérer. Parce que nous disons, mais c'est rien ça. Et c'est un autre prophète qui dira, mais ne méprisez pas les faibles commencements. Et je suis sûr que vous qui écoutez ce soir, Dieu a mis quelque chose dans votre cœur. Et qu'il y a forcément quelque chose. Et que là, vous êtes en train de vous tourmenté, de vous poser des questions, vous êtes peut-être là prisonnier de vos raisonnements, de vos analyses et de vos pronostics, de toutes sortes de choses hypothétiques qui ne vous rend que malade, alors que Dieu a envoyé un petit nuage. Il est là, le petit nuage. Mais par défaut de dire, eh bien, je crois et je persévère, je garde cette espérance, quelquefois le nuage passe au-dessus de notre tête, et puis voilà, ça disparaît, et il faut attendre encore, peut-être un certain temps. Donc savoir discerner les prémices de la bénédiction de Dieu dans les petites choses. On a faussé souvent l'esprit des chrétiens et des gens, en leur disant, et en leur montrant naturellement et tout à fait légitimement, que Dieu est un Dieu de puissance, un Dieu tonitruant. Vous avez prié, vous allez voir, le ciel va s'ouvrir, des éclairs, du tonnerre, un tremblement de terre. Eh bien écoutez, vous avez plus de chances de voir Dieu, la bénédiction de Dieu dans les petites choses que dans les grandes immédiatement. Parce que les petites amènent les grandes. Et ça, c'est une conception qui est souvent erronée. Parce que si nous avons la foi pour les petites choses, nous aurons forcément la foi pour les grandes. Et quelquefois, nous mettons, comme l'on dit populairement, la charrue devant les bœufs. Et ça pose des problèmes. Parce que tout de suite, on dit, mais Dieu n'exauce pas. Si on est capable d'être fidèle dans les petites, on sera fidèle dans les grandes choses. Et Dieu ne va pas nous confier des grandes choses avant d'avoir été exercé dans les petites. C'est simple, hein, vous saisissez ce que je suis en train de dire, parce que c'est important, vous allez voir la suite. Parce que la suite, c'est la nature qui nous enseigne. Vous comprenez? Parce que Dieu se sert de la nature. Combien de fois Jésus a pris les faits naturels pour enseigner ses disciples? Le pêcheur, ceci, cela, toutes sortes de choses qui font partie des paraboles. Et là, maintenant, nous allons justement ouvrir une parabole. Élie a été exaucé, je vous le dis. Merci Seigneur, c'est formidable. On va ouvrir maintenant dans Marc chapitre 4, et là vous allez comprendre. Comment fait-on pour arrêter le robinet? Voilà. Alors, Marc chapitre 4. Versets 26 à 29, et on va s'aider les uns et les autres à comprendre ce que ça veut dire. Verset 26. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Alors, cette nature qui nous enseigne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à l'espérance du laboureur? Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la persévérance du semeur, laboureur-semeur, qui va devenir à un moment donné, le croit-il de tout son cœur, un moissonneur? Il y a des étapes. Vous pouvez toujours aller voir un agriculteur en lui disant, voilà, vous allez faire vos semailles au mois d'octobre, et au mois de novembre, vous allez récolter. Ah, il va nous dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a toute une chronologie d'événements qui vont, eh bien, se succéder entre les semailles et puis, tout simplement, la moisson. Alors, il y a quatre étapes de la croissance de la foi. Vous voulez avoir une grande foi? Vous voulez aller plus loin avec le Seigneur? Vous voulez réaliser votre espérance? Vous voulez voir finalement, eh bien, ce dont Dieu a mis dans votre cœur? Vous voulez le voir réaliser? Écoutez bien la suite. C'est simple, hein? C'est très pédagogique, hein? Parce que l'enseignement, il nous vient de tout notre environnement. Et Jésus s'en est servi, regardez. Il n'a pas fait de la haute théologie, hein? Il n'a pas compliqué les choses. Alors, il y a quatre étapes de la croissance de la foi. On pourrait dire qu'il y a quatre étapes inspirées de la croissance de la graine en terre. La première chose, si l'on considère que la graine semence du cultivateur, c'est pour nous ce que nous sommes en train de faire, la graine de la foi. C'est petit et ça peut devenir une explosion d'abondance. Il y a d'abord la mise en terre de la semence. Jésus nous le rappelle et je le lis à dessein. Il en est du royaume de Dieu, comme un homme, cultivateur, agriculteur, jette de la semence en terre. Voilà, il la répand. Et il nous est précisé qu'il dorme ou qu'il veille. Il peut bien monter sa tente pendant 3 ou 4 mois au bord de son champ dans le fossé, en disant « je ne veux pas dormir tant qu'elle n'a pas poussé ». Et il va être épuisé. Et quelquefois, nous nous épuisons à vouloir faire ce que Dieu veut faire, et il ne nous demande pas de faire. Comprenez? Alors, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, qu'il nous est dit par un processus mystérieux, surnaturel, créateur, que la semence, elle germe, et elle croît sans qu'il sache comment, à moins qu'il ait fait quelques études de botanique. Mais bon, ça ne changera rien au problème, hein, ou à la question, de toute façon. Il ne sait pas comment ça se passe. Il sait que depuis les temps immémoriaux, ses pères et ses aïeux ont toujours fait ce geste de mettre de la semence, des céréales dans le champ, et puis à un moment donné, avec la persévérance nécessaire, eh bien il sait qu'il y aura un autre rendez-vous peut-être 10 mois plus tard, et là, il aura le pain pour toute sa famille. Tout simplement. Ça, c'est la mise en terre de la semence. Et puis, à un moment donné, qu'il dorme ou qu'il veille, ça ne change rien. Le blé est en herbe. Après les frimas de l'hiver, après tous les tumultes climatiques, alors le blé est en herbe, vous savez. C'est des petites tiges de rien du tout. C'est tout vert et ça s'épaissit de plus en plus. Les semaines passent et ça devient un véritable gazon. Et puis, ça monte, mais c'est vert. Parce qu'il y a eu ce processus de la germination. Et ces graines, tout en se désintégrant dans la terre, ont cru. Ont cru, qu'ils s'en sortent complexe dessus. Hein. Elles ont poussé, mais sans savoir comment. Écoutez, on va le relire, parce que c'est important. Hein. Il nous est simplement rappelé que la terre, à ce moment-là, elle a produit de l'herbe. Voilà, elle a produit de l'herbe. L'herbe verte. Et puis ensuite, il y a eu des épis, et des épis qui étaient comme les feuilles du blé, c'est-à-dire c'était vert. On ne peut pas faire grand-chose avec ça, naturellement. C'était la formation, c'était l'embryon d'un grain. Non. Un grain. Si c'est un blé de bonne qualité, il n'y a plus un grain maintenant qui est monté vers le ciel. C'est un grain 30, un grain 50, un grain 80, un grain 100, un épi formidable et majestueux, merveilleux. Il est chargé. On le voit, il est lourd. Il n'est pas encore très haut au-dessus de la terre, mais il est lourd, on sent qu'il y a une lourdeur. Alors, on voit quand il y a du vent qui passe, poum, tout se couche, en quelque sorte. Mais il n'est pas mature. Il ne faut pas griller les étapes. Il n'est pas prêt. Et la foi, c'est la même chose. Il y a des étapes à la recherche peut-être d'une délivrance, d'une guérison. Il y a des étapes à trouver la paix et la sérénité en nous-mêmes. Oui, il y a des choses qui se font immédiatement, mais il y a des choses qui suivent un processus. Et on l'a vu dans combien de vies où après, parfois, eh bien, les tumultes du départ, après les crises, les rebondissements, les remises en cause, les doutes, la perplexité, à un moment donné, eh bien, la personne a mûri. Le blé était en herbe. L'épi est arrivé. Mais il n'était pas encore tout à fait mûr, alors faut attendre. Faut pas griller les étapes. Parce qu'il n'est pas question de passer la faucille, parce que là, il n'y aura rien du tout. Hein. Tout sera acheté, il n'y aura rien à faire. Et puis, nous avons ensuite le fruit mûr. La dernière étape, le fruit mûr. La terre produit d'elle-même. Donc on a parlé de l'herbe, puis de l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et cette belle phrase, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et la boucle est bouclée. Et pour nous, c'est exactement le même processus. Il y a un départ et il y a une arrivée. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour attendre et persévérer. Il y a un temps pour se réjouir lorsque le blé commence à sortir. Il y a un temps également lorsque nous voyons que ce blé produit un épi, il est encore vert. Et puis il y a un temps pour faire la fête et se réjouir d'un grand bonheur parce qu'il y aura du pain sur la table. C'est parce qu'à ce moment-là, eh bien, l'épi sera finalement, eh bien, un véritable trésor à la couleur de l'or. C'est jaune, hein, le blé. Voilà. Et là, il y a de quoi se réjouir parce que le but est atteint à ce moment-là. Alors naturellement, tout cela va supposer une production. Et quand on parle de production en matière agricole ou en matière fruitière ou d'une manière ou d'une autre, on appelle ça des fruits. Le fruit, le bénéfice, le profit, ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui fait vivre et ce qui va nous donner de vivre nous-mêmes et de faire vivre les autres. Les fruits. Et le résultat nous est donné par la suite, on va le lire. Résultat. Jésus dit encore, verset 30, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus grand que les légumes et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Qu'est-ce que Jésus veut nous dire maintenant ? Il nous parle que quand le processus a été atteint, il y a naturellement une fécondité. Il y a eu une production qui est venue à terme et abondante. Mais il nous est parlé d'une chose que Jésus souligne et qui doit nous interpeller les uns et les autres, c'est passer de la production à la proportion extraordinaire du fruit. La proportion. Jésus nous parle d'une petite graine que l'on appelle le sévenet. Considérez, vous savez, le grain de moutarde rouge. Vous savez que vous avez quelquefois là, hein, à travers le pot en verre. Là. C'est une petite, c'est rien du tout. C'est une des plus petites semences de la terre. Un grain de sénévé. Et Jésus nous dit que ça part d'une chose insignifiante, pratiquement microscopique, et ça finit un arbre. Ça finit comme un arbre. Vous vous rendez compte? Remarquez, si vous regardez ce que peut être un embryon dans le ventre d'une future maman, une simple cellule, qui fait un géant, hein. Vous vous rendez compte? On n'était rien du tout. Quand on voit des hommes qui sont avec un gabarit, on se dit, mais comment on a été comme ça? On l'oublie, ça. Hein? Oui, on n'en a pas le souvenir, c'est normal. Mais même un tout petit bébé qui vient de naître, c'est tout petit. Puis on savoir que d'ici 20 ans, eh bien, ce sera un jeune homme, une jeune fille qui, voilà, c'est toute la beauté et puis tout cet aspect physique de la force, d'une belle constitution. C'est cette notion de proportion extraordinaire, finalement, de la profusion et de la croissance du royaume de Dieu dans nos cœurs sur le principe de la foi. Vous croyez, vous avez cru dans le Seigneur, c'est une semence de vie. Alors il va falloir persévérer, parce que vous en êtes peut-être qu'au départ, où nous sommes déjà sur le chemin depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, 50 ans, mais nous ne sommes pas arrivés au bout. Mais on voit que déjà dans la vie des personnes qui ont déjà expérimenté, ils ont déjà passé le blé en herbe. Ils ont déjà dépassé aussi pour certains, eh bien, le blé vert, l'épi vert. Mais on est près de la maturité pour être une gerbe en son temps enlevée par le Seigneur, avec une maturité, avec la paix, avec la joie, avec la vie de l'esprit jaillissante à l'intérieur de nous-mêmes, avec une connaissance spirituelle de la Bible, à travers les fruits tels que l'amour, tels que, en effet, eh bien, la bonté, la fidélité, tout ce que je pourrais vous dire, la patience, la persévérance, oui. C'est le royaume de Dieu qui a grandi dans les cœurs, dans les vies des hommes, et cela sur le principe de la foi. Parce que cette parole a été jetée comme la graine en terre. On ne sait pas si elle pousse ou elle pousse pas, mais on sait que Dieu nous dit qu'elle pousse. Et qu'un jour, elle va porter du fruit. Elle va arriver à maturité. Et ça, c'est une belle histoire. Écoutez, ça nous est naturellement, eh bien, rappelé. Petite graine, mais lorsqu'elle a été semée, il monte et devient plus grand que tous les légumes. C'est pas seulement un légume, hein, mais pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre, un arbre. C'est un autre texte qui nous met un arbre. Et vous savez que cette image de l'arbre est une belle image, parce que cette petite graine, la plus petite d'entre tous, va devenir, eh bien là, un arbre tutélaire, et où les oiseaux du ciel vont pouvoir habiter, nous est-il dit, c'est l'image de la sécurité, de la protection, de la paix et du bonheur que Dieu veut nous donner. Voilà la promesse que je voudrais vous rappeler ce soir. Ça se fait par étapes. D'accord? Ça se fait par étapes. Ne brûlez pas, ne grillez pas les étapes, ça va se faire. Mais le grand problème pour nous, c'est que nous voulons comprendre pourquoi ça se fait. Mais le Seigneur nous a jamais demandé de comprendre, il nous a demandé de croire, parce que c'est lui qui le fait. Selon des promesses, selon des principes qu'il a mis à l'existence parce qu'il est créateur, tout simplement. Et il nous est dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Seigneur, donne-nous cette capacité d'entendre qu'il nous faut persévérer dans l'espérance sans brûler les étapes. C'est tout. Ça va ? C'est pas difficile. J'espère que vous n'allez pas sortir avec la précipitation ce soir en disant je rattrape tout le temps perdu. Attention. Ou autrement, je vous garde jusqu'à pendant 8 jours ici. Vous allez voir. Il ne leur parlait pas, nous dit le texte aussi, sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Vous avez bien fait de venir ce soir quand même. La conclusion. C'est beau, hein, la parole de Dieu, hein, non? Ah, il y a des choses tellement simples. Vous savez, Jésus avait une sagesse tout à fait particulière. C'est qu'il n'enseignait pas comme les hommes enseignent, avec des choses compliquées, alambiquées, qui vous donnent d'avoir là des migraines, parce que vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, ceci et cela? Il parlait simplement. C'est pour ça que les enseignements de Jésus sont compréhensibles par tous les hommes. Même les petits-enfants, ils se régalent, comprenez? Et on a besoin d'avoir un cœur d'enfant. Parce que derrière une apparence simplicité, il y a une grande sagesse éternelle et une sagesse divine et céleste. Alors la conclusion, eh bien, on va la prendre dans Hébreux, quand il nous est dit ceci dans le livre des Hébreux. Au chapitre 6 d'abord, et c'est un encouragement, et au verset 12, il est dit ceci. Au verset 11 par exemple, c'est Paul qui dit ceci, nous désirons. C'est une noble volonté d'un serviteur de Dieu qui désire que ceux qui l'écoutent, eh bien, ils puissent véritablement, eh bien, là, grandir. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, la même persévérance, on pourrait traduire, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, jusqu'au bout, hein, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous savez que tous les personnages dans la Bible, c'était des hommes de foi. Ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont même quelquefois grillé les étapes, mais à chaque fois qu'ils ont grillé les étapes, Dieu leur a fait reprendre l'étape précédente. Donc, ils ont avancé comme ça, tout au long de leur existence, de leur vie. Mais une chose qui les a caractérisés, c'est qu'il y avait quelque chose dans leur cœur, c'est la foi. La foi et la persévérance, parce qu'ils avaient un objectif, c'est que Dieu leur avait donné des promesses. Et le plus grand désir de leur cœur, c'était de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et ils les ont vues. Et vous savez pourquoi ils les ont vues? Parce qu'ils ne se sont pas relâchés. Ils n'ont pas lâché la cognée. Ils n'ont pas abandonné. Ils marchaient dans un sillon qui était le sillon de l'espérance en Dieu. Et ils ne se sont pas retournés ni en arrière, ni sur les côtés. Ils ont continué à marcher. Ils ne se sont pas relâchés, même s'ils ne comprenaient pas. Même s'ils n'ont pas toujours saisi les chemins par lesquels Dieu les faisait passer. Alors, ils ont hérité des promesses. Et Dieu vous le dit ce soir, il a fait des promesses dans votre vie et il veut que vous en soyez les héritiers. Mais vous allez les hériter que dans la mesure où vous allez persévérer, tout simplement. Puis toujours dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, encore un dernier texte, où il est dit ceci au verset 36, parce que c'est aussi là, eh bien, également pour nous, il est dit cette parole. Voilà. Car vous avez besoin de persévérance. Si je vous pose la même question, est-ce que vous avez besoin de persévérance dans votre vie? Dans les choses indifférentes de la vie, on persévère parce que quelquefois il en va de notre salaire, hein. Si vous êtes engagé dans une entreprise et puis que vous avez un travail à faire et que vous dites à votre patron, ben il fait du soleil aujourd'hui, je viendrai pas. Vous allez voir un peu comment ça va se passer. Hein. Ben oui, je suis fatigué. Non, on sait comment faire hein, dans la vie, tout court. Alors il est dit, mais vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire la persévérance, vous obteniez ce qui vous est promis. Et puis, il est ajouté comme quelque chose de très sensible pour nous dire, bien, Dieu vous pousse encore un petit peu, pour pas que vous arrêtiez, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Celui qui a fait la promesse, eh bien, il va vous l'apporter, cet exaucement. Et il nous est dit, mais mon juste vivra par la foi. Vous vous rendez compte que vous êtes appelé juste? Je sais pas si vous vous sentez juste. Moi, je me sens pas juste. Mais je sais que quelqu'un a pris ma place et qu'il m'a justifié. Parce que lui, il était parfaitement juste. Et je suis justifié aujourd'hui. Et je suis justifié à cause d'une chose. Non pas parce que je fais des bonnes œuvres, non pas parce que je fais des choses extraordinaires, que je me montre un bon garçon. Pas du tout. Hein, peut-être, mais toujours est-il que je suis justifié parce que j'ai confiance en lui. Ma justice, votre justice, c'est parce que vous avez confiance en Dieu. Tout simplement. Et pas autre chose. Alors je termine. Il nous faut faire preuve de persévérance assidue. Parfois, nous pouvons avoir des fléchissements dans notre vie, lassitude, découragement, mais si nous demandons à Dieu, il va nous donner cette persévérance. Seigneur, donne-moi d'être persévérant. Au risque de passer à côté de la bénédiction, il faut que ça soit ni trop tôt, ça c'est la précipitation, ni trop tard, c'est la négligence. Comprenez? Ni trop tôt, ni trop tard. Il faut respecter les étapes. Parce qu'il y a un phénomène et un processus de maturité qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Deuxièmement, c'est qu'il nous faut savoir reconnaître les petits miracles. Pas plus gros que le nuage d'Élie qui qui rentrait dans la paume de la main d'un homme. Les petits miracles. Vous allez me dire, vous en avez vu les petits miracles, non? Les petits miracles, il y en a. Des petits miracles de tous les jours. On dit merci Seigneur parce que j'avais quelques appréhensions, j'avais quelques craintes et je me suis aperçu que tu as entendu ma prière. Mais c'est tous les jours que Dieu bénit, nous donne des petits miracles. Ou alors, il ne faut pas négliger aussi le grain de sénevé pour pouvoir voir plus grand. Parce que d'un petit grain, ça devient un arbre, tout simplement. Et avec ces expériences du petit et du grand, du petit d'abord et ensuite du grand, eh bien, nous ferons des pas de géant spirituel. Et je peux vous dire que ça va vous façonner la vie. Je peux vous dire que vous allez devenir des chrétiens enracinés, inébranlables, parce que vous pourrez dire, moi, je crois en Dieu, non pas parce qu'on m'a dit qu'il était comme ceci et cela, mais je crois en Dieu parce qu'il a fait ceci et cela dans ma vie. Des pas de géant. Il faut persévérer sans lâcher prise. Est-ce que vous êtes d'accord de persévérer sans lâcher prise et de rester enraciné et de continuer à lui faire confiance? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe sans savoir comment. Alors n'allez pas chercher midi à 14h où vous compliquez la vie et les ménages. Vous tracassez pas. Quand Dieu a fait une promesse, c'est lui qui va l'accomplir. Ne vous allez pas, vous ne rendez-vous pas malade pour savoir comment il va faire. Ça, c'est pas votre problème, c'est le sien. Il y a aucun problème de ce côté-là. Car la pluie, mes frères et sœurs, mes amis, elle vient. Elle vient. Elle est là. Parce que vous avez lu avec moi, il y eut une forte pluie. Et la moisson est mûre. Alors, quand la moisson est mûre, qu'est-ce qu'on dit? La récolte est proche. Oui, la récolte est proche. Car il y a un temps pour toutes choses, sous le soleil. Et simplement terminer par cette dernière pensée que je vous livre, c'est que la foi, dans l'espérance de Dieu, la foi et l'espérance, et la lumière qui nous éclaire, et qui produit la vie. Et la vie dont vous avez besoin, c'est pas de s'agiter de droite et de gauche, de dire à qui veut l'entendre « j'existe » ou « je suis vivant », mais la vie, la vraie vie de Dieu, elle n'est pas forcément uniquement à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Et si elle est puissante, si elle est éclatante, rayonnante à l'intérieur, tout le reste suivra de tous les côtés. Et c'est ça justement ce qui est formidable. D'un petit grain, vous avez un épi où il y a 100 nouveaux grains dedans. Eh bien, vous voulez vous enrichir? Je peux pas vous dire de jouer au loto et puis de gratter et de... Hein? Voilà. Vous voulez vraiment vous enrichir? Eh bien, semez la semence de la foi et vous allez voir combien vous allez être riche en tout. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, je prêche l'évangile de la foi spirituelle en Jésus-Christ qui sait nous donner au-delà de toute mesure de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons lui demander. Alors, ne brûlez pas les étapes, d'accord? On va pas brûler les étapes, mais on va attendre que Dieu fasse son œuvre, et on va le remercier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es fidèle, Jésus. Nous voulons simplement, Père éternel, eh bien, te rendre grâce pour ces beaux messages de l'Évangile. Ils sont beaux parce qu'ils sont simples. Ils sont beaux, Seigneur, parce que en effet, les petits-enfants, même les ignorants, même ceux qui n'ont pas une grande culture comprennent ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas un message primaire, mais c'est de la haute sagesse divine dont, en effet, nous avons cela à contempler, à considérer et à examiner, Seigneur, dans le grand livre de la nature. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que de cette nature, tu nous enseignes, Jésus. Mais de cette nature, tu as fait coller aussi les réalités de la vie spirituelle pour nous dire que c'est le même Créateur, c'est le même Sauveur, c'est le même Seigneur. Je te demande de visiter tous mes amis. Oui, Seigneur, ceux qui sont à même d'entendre cette parole et de la croire et de la serrer dans leur cœur, de continuer à persévérer dans l'espérance, Seigneur, de ta grâce et de ta bénédiction, de ton salut, délivrance et guérison. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus maintenant, Seigneur, eh bien tu nous raccompagnes dans les choses que nous avons entendues et reçues, et donne-nous, Père éternel, d'être sage et prudent pour ne pas griller les étapes. Merci, mon Dieu, merci, Jésus, parce que ton œuvre, tu l'as fait, et cette œuvre-là, elle est parfaite. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.